With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui, on va s'attarder sur Selfie, une comédie 2.0. À mes côtés, j'ai deux chroniqueurs très connectés, Clotilde Bruno.
Salut.
Et Max Besnard.
Coucou.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie.
Mais j'ai pas de problème, moi.
Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 euros.
Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs.
Et je le fais pour une comédie française sur deux.
Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous.
Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse.
Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra, là?
Tout le monde s'en branle de nous.
Merde, merde, merde!
C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là.
Alors c'est un format de comédie qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en MDR et... Plus généralement en France, c'est une comédie omnibus, comme on dit, où c'est différents segments qui se recoupent et les uns les autres, mais avec des histoires très distinctes. C'est réalisé par plusieurs metteurs en scène. Il y a Thomas Bidguin, Marc Fitoussi et Tristan A. Orway. Et il y a un casting assez fourni, puisque forcément, il faut beaucoup, beaucoup de comédiens pour ça. Donc on peut notamment citer Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zimmerstein. Et donc du coup, qui dit comédie multi-story, résultat un peu
Inégal.
Inégal, forcément, mais il sera forcément inégal, parce que quand t'as plusieurs histoires, forcément t'as celle que tu préfères, celle que t'aimes le moins.
C'est pas parce que t'en as que tu préfères que les autres sont moins bonnes.
Exactement.
Alors que là, c'est le cas.
Max, puisque tu prends la parole, qu'est-ce que t'as pensé de Selfie ?
Alors, c'est hyper frustrant parce que... C'est-à-dire que ça commence très très bien. Alors, j'imagine que c'est voulu. Hein, ça commence par le meilleur segment. En tout cas, celui qui est le plus drôle, à mon sens, et le mieux écrit.
Peut-être. C'est un segment qui commence, mais en même temps qui emballe complètement le film, puisqu'on le retrouve au fur et à mesure.
Ouais, c'est ce qui est filé sur tout le film.
Voilà. Et il s'avère que c'est le segment avec Blanche Gardin, qui a été écrit par Noé Debré. Noé Debré, c'est le co-scénariste de Problemos avec Blanche Gardin, encore une fois. Donc, on retrouve un petit peu ce genre d'humour hyper incisif, hyper
très méchant.
Très très méchant et en même temps très drôle, avec certes un pitch qui ancre complètement l'histoire dans notre époque. Donc c'est des parents qui veulent faire de leur enfant malade une star de YouTube et qui veulent absolument briller comme ça. Et c'est, disons que sur le papier, ça, c'est un pitch qu'on n'a pas forcément envie de voir. J'ai l'impression qu'il va être beaucoup décliné dans les prochains mois. Mais le fait est que Blanche Gardin est impériale sur toute la longueur de ce segment.
Blanche Gardin et son partenaire Maxence Tuel.
Tu fais bien de le préciser parce qu'il est aussi assez incroyable. Même les gosses jouent super bien. Il y a un twist auquel on ne s'attend pas du tout. C'est pour ça qu'on...
Ouais.
Si toi tu le vois venir,
il est suggéré.
Ouais, non, il est bien suggéré.
Non, bien sûr, il est suggéré, mais c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer au tout début,
au tout début.
Du segment, évidemment. Et je trouve qu'il tombe plutôt bien.
Moi, je le trouve un peu mal amené, justement. Ça m'a vachement frustré ce
segment-là. S'il y avait un segment préféré, moi aussi c'est mon préféré. Toi, tu n'es pas moins. Moins séduite par celui-là. Quoi le problème avec celui-là?
Alors, en fait, le seul truc, c'est que je trouve qu'il démarre extrêmement bien parce qu'il est finalement limite assez proche de la réalité, en fait, et c'est ça qui est bon, c'est que du coup, c'est comme tu le disais, c'est méchant, c'est incisif, et c'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré justement les premières parties, les premières scènes qu'on voit, et c'est quand ça part un peu plus justement sur le twist qu'on ne révélera pas forcément, que là, je trouve qu'on perd un petit peu cette réalité et ce truc qui est finalement très actuel et qui nous parle de nos propres pratiques et qui parle de gens qu'on pourrait identifier, où là, tout d'un coup, on part complètement dans autre chose. et où en fait on perd pour moi ce qui faisait que c'était vraiment bien au début. C'est que tout d'un coup t'es plus dans le une sorte de critique assez réaliste dans laquelle on se retrouve, t'es vraiment dans le bon bah allez, on part vraiment à fond dans la fiction. Et tu, c'est vraiment dommage parce que c'est extrêmement bien joué, pour le coup je suis tout à fait d'accord, il y a plein de scènes qui sont fantastiques. T'aurais limite envie qu'en fait plus ça va, plus ça aille loin, mais pas forcément dans la direction qui a été prise.
Mais cela dit, ça permet d'avoir une chute qui fonctionne hyper bien, je trouve.
Oui, c'est sûr que ça clôt un petit peu la storyline, cette storyline-là. Mais
Et j'insiste sur le fait que, c'est pour ça que je voulais le mentionner au début, que Noé Debré, donc co-scénariste de Problemos, a écrit ce segment. On a exactement la même mécanique, finalement. C'est-à-dire que tu pars sur quelque chose qui est ancré dans une réalité un petit peu tordue, mais qui finalement pas si dingue, et qui part après complètement
C'est des parents qui utilisent leur enfant
malade,
handicapé.
Je crois qu'il a une maladie orpheline.
Qui a une maladie orpheline, mais bon, il est plus handicapé. Et donc, au bout d'un moment, le gamin est plus handicapé. Et du coup, ils sont dans la merde parce que leur chaîne qui faisait 16 millions de vues.
Elle s'effondre.
Ouais, mais ça permet d'avoir des phrases incroyables où ils sont trop ravis de filmer leur enfant malade et de faire oh, on a fait 16 millions de vues, c'est plus qu'intouchable. Et ça, putain, ça, c'est des punchlines. Putain,
ah oui, non, mais
y
ça.
Il y a des vrais super
punchlines. Je te dis, moi, c'est justement dans ce début-là que moi, où j'adhère à fond parce que c'est.
Et Blanche Gardin, il y a son style d'acting un peu à froid qui me rappelle Marina Foïst, de l'époque. Il y a vraiment, je trouve qu'elle est super efficace.
Ouais, mais en fait, elle est dans ce segment exactement comme elle est sur scène. Ce côté, elle est capable de dire des atrocités, mais avec un naturel qui est hyper déconcertant. Et je sais pas, c'est
elle est vraiment des problèmes d'alimentation. C'est horrible. Elle est horrible.
Ouais, puis elle est assez touchante en fait quand même. C'est ça que je trouve bien. Évidemment, elle est atroce.
c'est un peu des turbo-beaufs quand même les deux.
Ouais, non, mais ils sont horribles évidemment. Ouais.
Parlons du deuxième segment qui est. Mais je suis moins fan. C'est celui de Elsa Zimmerstein qui devient le troll de Max Boublil, de Toon.
J'ai trouvé très mauvais celui-là.
Touché.
Ah putain.
Incarné par Max Boublil. Alors, je veux pas avoir l'air anti-Max Boublil ou quoi, mais.
T'as le droit de pas kiffer ses rôles au cinéma.
Il est mieux que dans Play, mais encore que. Bah, voilà, je trouve que ce segment est un peu faiblard. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui troll un comique. Elle est prof, et puis au fur et à mesure, il naît une espèce d'amitié, amour entre eux. Mmh. Et
ça glisse en DM. Hein.
Ça glisse, voilà,
ça. Voilà.
Ça glisse en DM, et puis
voilà.
En fait, je pense qu'un des soucis de celui-là, c'est qu'il essaie tellement d'être actuel et faire le langage des jeunes, c'est ça. Qu'en fait, il est déjà, et c'est toujours le problème quand on parle du numérique aujourd'hui, mais il est déjà ringard avant même d'être sorti. Voilà, tout le vocabulaire, ce qui est utilisé.
Jusque dans l'habillage avec les textos, les DM qui apparaissent à l'écran.
Voilà.
Enfin, c'est lourd.
On est à presque tous. Non, en fait, il y a presque 5. Il y a celui du 2,6, donc, qui est incarné vraiment par Finnegan Oldfield, qu'on a déjà vu dans Le Poulain.
Oui.
Il était vraiment bon dans Le Poulain. Mmh. Et donc, c'est l'histoire d'un mec. Alors, moi, je suis plus au courant de comment ça se passe, les applis, mais du coup, les applis de rencontre, maintenant, ils sont notés. Ils sont notés comme s'ils étaient des chauffeurs Uber. Et donc, du coup, il a une note super basse. Et il veut pécho une femme qui il lui faut être un 5.0 alors qu'il est un 2,6. Et ça va montrer sa quête. Et c'est peut-être le plus absurde. Moi, j'ai pas trop compris le fonctionnement de. Enfin, si j'ai compris le fonctionnement, mais je suis pas trop convaincu par le fonctionnement des gens notés comme ça.
Non, disons qu'il y a un côté très Black Mirror. Tu vois, le problème, c'est que ça a déjà été tellement traité, cette histoire de notes. On l'a vu partout, dans les médias, en parlant de la Chine, etc. On l'a vu dans la fiction, donc dans Black Mirror. Mais en soi, ce segment est pas mauvais parce qu'ils ont des acteurs qui sont plutôt chouettes, justement. Et je trouve que c'est sympa. Ouais. Mais.
Non, mais c'est paresseux quand même.
Les acteurs, bon, désolé pour Max Boublil, mais vraiment, sinon, il y a Manu Payet, il y a Sébastien Chassagne qui est vraiment
voilà,
super.
C'est mon gros, moi, de toutes les manières, mon énorme coup de cœur.
C'est ton crush.
Gros crush, c'est mon futur Jonathan Cohen.
Je veux bien le croire. Il y a Marc Fraisse aussi, vraiment. Il y a ton poteau Esteban. Il est avec son merveilleux accent. On va s'écouter un petit extrait.
Bonne 24 ans, c'est pas toi.
Ah oui, non, mais ça, c'est parce que c'est une vieille photo.
T'as sacrément bourlingué, alors.
Quoi?
Oui, ça va, il est 19h30, là, c'est bon.
C'était qui?
C'est ma femme, on s'est mariée à 15 jours, elle est en cloque, elle fait déjà chier, quoi.
Non, mais j'ai vraiment 24 ans, c'est pas...
Arrête!
Est-ce que je peux avoir, monsieur, s'il vous plaît, un Sex on the Beach?
Bah, tabernacle, plein de bonnes idées, moi, si je m'en vais prendre des choses à grignoter, hein.
T'es-tu en train de te moquer de mon accent?
Voilà, je vous présente notre nouvelle boss. Elle nous arrive tout droit de Montréal.
Comme quoi, c'est tout petit Paris.
Non, je crois que vous faites erreur parce qu'on s'est jamais vu. Il y a un visage comme celui-ci, je l'aurais pas oublié.
C'était Finnegan Oldfield, et ça, c'était 2,6. Il y en a un que j'ai plutôt aimé, moi. C'était Recommandé pour vous, avec Manu Payet, qui, tout d'un coup, se fait solliciter par les sites internet. Ah non, toi, t'es pas fan?
Non, parce que... enfin, je te laisse terminer ton pitch, peut-être, pour expliquer en fait, l'idée du segment.
C'est, en gros, Manu Payet qui devient esclave des recommandations sur internet, et qui se met à acheter tout ce qu'on lui recommande, que ça soit une corde, que ça soit du Viagra, que c'est tout. Il se met à tout acheter.
Devenir un pêcheur hyper assidu.
Et surtout, en fait, ses recommandations, pardon, mec, de manière tout à fait impolie, influencent directement sa vie. Ça a un effet sur lui. Quand on lui recommande du Viagra, il n'arrive plus à bander. Quand on lui recommande une canne à pêche, il va vraiment devenir pêcheur. Enfin,
moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dedans.
Exactement.
Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Sauf que ça ne va pas assez loin, à mon sens.
Ah ouais?
Je trouve que ça fait qu'effleurer l'idée qui est en soi brillante. Et je vais me permettre de reciter encore une fois Black Mirror, comme tu l'as fait, Clotilde. Mais on est vraiment dans ce délire-là. Sauf que là, pour une fois, c'est un scénar qu'on n'avait pas vu, contrairement à celui de l'application qui note les gens. Et malheureusement, je trouve que ça va pas assez loin. Ça reste timide. Et à mon sens, Payet, il est pas du tout dans le rôle. Je trouve que ça fonctionne pas avec lui. Il aurait peut-être fallu quelqu'un d'autre, quelqu'un de. Qu'il aurait joué peut-être plus cynique, j'en sais rien.
Alors moi, j'ai vraiment aimé celui-là.
J'ai plutôt aimé celui-là. Peut-être... Et surtout, il se finit avec Marc Fraisse. Et je suis assez content.
La chute est géniale.
La chute est super. Oui, donc, la chute est vraiment super. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça aurait pu être poussé plus loin. Parce qu'en fait, finalement, ils assument vraiment le côté absurde de ce pitch-là, vraiment. Mmh. En se disant, parce que autant sur tous les autres, il y a une sorte de truc un peu plausible. Là, le mec dont ça influence la vie à ce point-là, t'y crois pas, et c'est ça qui marche, en fait. Oui, c'est vraiment ce côté un peu limite burlesque à certains moments. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. En effet, je pense qu'ils auraient pu le pousser plus, mais vraiment, je trouve que c'est celui qui a peut-être le plus d'originalité dans son regard sur la technologie et sur comment ils gèrent ça avec leur personnage.
Et puis, il y a le dernier, et ça, c'est le dernier segment. C'est celui où tout fusionne, c'est celui avec une espèce de Wikileaks, où tout le monde apprend tout sur tous les secrets de tout le monde. C'est-à-dire, tous les messages, même effacés, apparaissent et peuvent être browsés par tout le monde. Et du coup, ça fout la merde à un mariage, puisque tout le monde apprend que qui a fait cocu avec qui, qui a envoyé des messages, voilà. Et celui-là, c'est celui le plus Black Mirror, j'ai envie de dire.
Ah ouais?
Ouais, oui. Le déroulé est absurde et ce qu'on t'apprend, c'est une espèce, on t'apprend le savoir universel en deux clics. J'ai du mal à, voilà.
Ah, moi, je trouve qu'au contraire, c'est celui qui parle limite le moins de technologie, en fait, parce que t'es moins enfermé dans le concept de, imagine, il se passe ça, et tiens, il y a tel truc technologique qui t'enferme. C'est juste un levier. Tout d'un coup, tout le monde connaît les secrets de tout le monde.
Ouais.
Et je trouve que t'es moins en train de parler de technologie, effectivement. Alors, il y a quelques pics sur les gens qui pètent un câble parce qu'ils n'ont pas de réseau. Non, je trouve qu'à la rigueur, il a peut-être un côté un peu trop qui a baisé avec qui, etc. Et que finalement, l'enjeu, ça devient ça plutôt qu'autre chose.
Mais c'est l'enjeu
à chaque fois.
Et pour le coup, contrairement au segment précédent, aux deux segments précédents, même, je trouve que la chute, elle tombe un petit peu à plat. Mmh. Le truc arrive et tu dis, ok, tout ça pour ça.
Ouais, puis ça te laisse des trucs un peu ouverts de... Il y a un moment, une histoire de troll qui est filée durant toutes les intrigues aussi. On comprend pas trop, du coup, de qui il s'agit, etc. Enfin, il y a des trucs que le scénar referme pas forcément.
Ça ramène Zilberstein, le personnage de Zilberstein à ce moment-là, qui n'a aucune incidence sur ce segment. Ouais. Tu dis, ils l'ont mis juste parce qu'il fallait la mettre à un moment ou à un autre.
Parce qu'il faut y remettre tous les acteurs.
Bah oui, mais Max, il est pas là.
Oui.
Par contre, il y a Sébastien Chassagne dedans beaucoup, donc moi, j'ai bien aimé quand même.
Alors, voilà le bilan, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tous les extraits, sur tous les segments. Moi, j'ai aimé le premier.
Moi aussi.
Toi, un peu plus, t'as moins aimé le premier, mais t'as aimé les autres.
Pas tous.
Oui, non. Voilà. Et le truc,
il y a quand même un consensus sur le segment avec Boublil.
Oui, non, ça clairement, je pense qu'on est.
Mais
d'accord.
Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est rare de voir une comédie qui est autant, pour moi, le nez en tout cas en termes de casting. C'est-à-dire, t'as le plus expérimenté, c'est Manu Payet, quoi, et Elsa Bernstein. Et le reste, c'est quand même vraiment, tu vois, la force vive, quoi. C'est Blanche Gardin, Finnegan Oldfield, Sébastien Chassaigne.
T'as Fanny Sidney aussi, qu'on a vu dans 10%.
Elle est super. Et Marc Fraisse, en plus.
Ouais, c'est clair.
Et
c'est trop drôle, qui est génial dans
son
rôle.
Son personnage est génial.
Il est super, il est super.
Justement, dans le dernier segment, pour moi, c'est lui qui explose tout.
Exactement, il est tellement bon.
Donc, on va dire, combien vous payez? Alors toi, combien tu payes, Clotilde ?
Combien je paye ? Écoute, bonne question, j'avais oublié qu'il y avait cette question. Max, vas-y, je réfléchis. Écoute, comme ça pendant ce temps.
Je suis hyper frustré parce que vraiment, le segment avec Blanche Gardin, je l'ai beaucoup aimé. Ça aurait pu faire un court-métrage, enfin c'est un court-métrage, mais c'est un court-métrage imbriqué dans un film, ça aurait fait un super court-métrage pris dans son ensemble. J'ai clairement pas envie de revoir ce film.
Moi, je pouvais voir un film entier de Blanche Gardin.
Bien sûr.
Qui dit du mal.
Bien sûr, ça s'appelle Problemos. Mais non, en soi, là, j'ai pas spécialement envie de le revoir et je me dis, bon, écoute, allez, pour soutenir Noé Debré et Blanche Gardin, je mettrai 4 euros.
Et les 5 autres réalisateurs et tous les autres auteurs, il y en a beaucoup.
Et Sébastien Chassagne, etc. Vraiment... Mais moi, c'est vraiment eux deux, tu vois, c'est Gardin, ouais. Et Debré, je trouve qu'ils ont un truc qui fonctionne, quoi.
Et toi, Clotilde, ouais, t'as mis combien ?
J'ai dit 4.
J'ai dit 4 euros. Moi, je mettrais un peu plus parce que je trouve qu'il y a énormément de problèmes dans ce film. Il y a plein de choses que j'aime pas. Mais, et comme le dit Daniel, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un casting qui est super, qui va piocher aussi dans la série télé, pas que dans le cinéma. Donc, c'est assez marrant de voir qu'il y a aussi des générations qui émergent. C'est intéressant. Moi, je mettrais un bon. Allez, un 6 euros, quasi le prix.
Ouais, moi, je mets 5, 6 euros.
Ouais,
moi,
voilà.
Je suis content de voir quelque chose d'assez vif. Et surtout, j'ai vraiment rigolé, j'ai vraiment rigolé au.
Ah oui, bien sûr.
Et à certains moments, il y a une réale aussi. Hein. Moi, je trouve que le dernier, là, le mariage, il y a des plans assez jolis. Enfin, il y a 2-3 trucs. Ouais. Bon, c'est pas.
Ça donne des idées d'organisation de mariage.
Attends, tu viens d'avoir un enfant. Okay.
prochaine étape.
Je vois un pattern qui se dessine.
Taisez-vous. Taisez-vous. Votre co, Clotilde.
Écoute, moi, ma reco, je pense qu'elle a probablement déjà été faite 25 fois dans cette émission, mais c'est pas grave, ça va être irresponsable. Irresponsable saison 3, est-ce qu'on l'a déjà faite ?
Non, on l'a pas faite.
Ah ben voilà, saison 3.
Ultime.
Meilleure série française.
Très clairement, moi, c'est vraiment une série que j'adore, qui est parfaite, mais déjà qui a
l'avantage. Il y a une telle envie d'écriture, d'acting, il y a tout ce qu'il faut. Quoi.
Et finalement, c'est assez rare aujourd'hui de regarder quelque chose et de vraiment d'avoir un fou rire, d'avoir un vrai rire. Tu peux avoir un petit un petit sourire, un petit
oui, c'est Hugo Alexandre qui fait ça.
Écoute, pour le coup, moi, Irresponsable saison 3, je me suis tapé des vrais barres devant.
T'as bien raison. Et toi, Max ?
Alors, j'avais envie de recommander la saison 10 de Curb Your Enthusiasm à Larry David, mais vu qu'elle est en cours, qu'elle n'est pas finie, ça
sert à rien. Ça mal se finir.
Peut-être qu'elle va être complètement nulle. Donc, je vais éviter ça. J'avais envie de parler aussi de Bonne Nuit Blanche, le spectacle de Blanche Gardin, que je viens tout juste de voir. Je rattrape un peu mon retard, mais il est évidemment monstrueux et à voir absolument. Et forcément, il y a une résonance avec ce film. Mais je vais plutôt recommander un truc sorti de nulle part. Et en plus, c'est gratuit, c'est sur Internet, c'est trop bien. Ça s'appelle Yo Pékin. C'est un film qui est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. C'est un film réalisé et interprété notamment par Esteban, donc David Boring du groupe Naive New Beaters, je crois qu'il s'appelle Michael Bensoussan dans la vraie vie, qui est donc l'acteur qui est le mec de Smilex. C'est le gars qui aide à avoir des clics sur Internet, etc.
Qui a des fermes de likes.
Qui parle
D'ailleurs, à ce propos, j'en profite, mais quand on a entendu la punchline sur le trailer qui est « Ah, mais j'aide une comédie française sur deux », ce qui est assez drôle, c'est que si tu regardes...
C'est très méta, dans une comédie française.
Parce que tu regardes les commentaires de Selfie, tu verras qu'il y a beaucoup de comptes qui ont été créés le jour de la sortie du film. Voilà, je balance au passage. Mais voilà, donc ça s'appelle Yo Pékin. C'est complètement absurde. C'est réalisé avec un smartphone, ça dure 3/4 d'heure. C'est à la fois l'histoire de Naive New Beaters et une fiction complètement débile du groupe qui part en tournée en Chine et ça se passe très très mal. Et je trouve qu'Esteban est un mec hilarant, avec vachement de charisme, qui propose quelque chose de vraiment en marge de ce que les autres acteurs de sa génération proposent actuellement dans les comédies françaises. Et donc, comme je disais, c'est gratuit, c'est sur Vimeo en libre visionnage.
Écoute, cool. je vais regarder, tu m'as hypé.
Ouais,
pour ma part, je vais être bref, je vais recommander The Long Shot, une rom-com qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle en français, attention, accrochez-vous, Séduis-moi si tu peux, avec Seth Rogen et Charlize Theron. Et pourquoi celle-là ? Parce que je trouve qu'elle utilise vraiment bien les réseaux sociaux et comment un président aujourd'hui aux États-Unis se fait élire avec les réseaux sociaux. Évidemment, il y a Seth Rogen, donc forcément, il est question de...
dont tu es le sosie français officiel.
Oh, run. il est à un moment question de sextape et de masturbation devant Internet. Mais bon...
Ok.
J'ai travaillé tout mon Seth Rogen. Hein, c'est...
À la technique, je swipe droit pour Quentin. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes nos applis dédiées. Merci de vous abonner, merci de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, car MDR est là encore. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle comédie. On vous embrasse.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.